Salut à toutes et à tous, bonjour et de retour ici en direct du Parlement européen à Strasbourg sur ce stream. Très heureux de vous retrouver pour ce live exceptionnel. On est en partenariat avec le Parlement européen. Vous avez pu suivre avec moi depuis ce matin le débat sur l'état de l'Union. Je ne vous l'ai pas survendu, vous avez vu, il y a eu des annonces, c'était très attendu. Ici, il y a des journalistes de toute la planète qui sont tout autour de nous. Ça brise de partout, il y a des eurodéputés partout qui courent partout aussi parce que c'est très important ce qui se passe au Parlement européen à Strasbourg. C'est le dernier débat sur l'état de l'Union avant la fin de la mandature d'Ursula von der Leyen. Avant les prochaines élections européennes, c'est vous qui allez voter l'an prochain, je vous rappelle, pour décider de la suite de l'histoire. Et à l'issue de ce débat qu'on a regardé ensemble ce matin, j'ai le plaisir d'être ici en plateau avec des eurodéputés français de la délégation française. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Aurore Laluc.
Bonjour.
Aurore Laluc, bonjour, vous êtes députée européenne. Ouais. Vous siégez au sein du groupe social-démocrate qu'on a entendu ce matin à plusieurs reprises. À côté de moi également, Marie Toussaint. Bonjour Marie Toussaint.
Salut.
Marie Toussaint, vous êtes députée européenne écolo.
Tout à fait.
Et par ailleurs, tête de liste déclarée pour les élections européennes de l'été prochain. Je suis désolé, j'ai le cerveau cramé depuis ce matin.
Élections législatives européennes, ça marche aussi.
Oui, ça marche aussi. Ouais. Non, mais ça marche aussi. François-Xavier Bellamy aussi avec nous. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vous aussi eurodéputé français, membre du Parti Populaire Européen, le groupe qui est l'équivalent des Républicains chez nous en France.
Exactement.
Voilà, d'ailleurs, vous étiez tête de liste en 2019 pour les Républicains, la droite qu'on a entendue du coup ce matin, le principal groupe au Parlement européen qui a une majorité relative, ce qui est habituel ici à Strasbourg, ce qui est beaucoup moins habituel chez nous en France, on ne le découvre que depuis un an, mais ici on a cette habitude. Vous étiez tous les trois ce matin dans l'hémicycle, vous avez entendu comme nous les propos de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Moi j'ai pris plein de notes, j'ai entendu beaucoup de choses, mais j'ai eu le sentiment qu'elle avait envie de plaire à tout le monde, j'ai eu l'impression qu'elle a longtemps parlé de climat, je me suis dit tiens ça va faire plaisir à Marie Toussaint, ensuite elle a parlé de compétitivité, je me suis dit ça va faire plaisir à François-Xavier Bellamy, puis ensuite elle a dit qu'il fallait quand même un sommet social européen, ça va faire plaisir à Orlaluc. Est-ce que vous sortez tous les trois satisfaits par la partie du discours qui vous concernait ou est-ce que vous sortez tous les trois
Non, c'est un discours qui était vide.
On va se parler clairement.
On va se parler clairement. C'est même pas, ça a même pas fait pchit. Pour que ça fasse pchit, il faut que ça se gonfle à un moment. Il faut qu'il se passe quelque chose. Là, il ne s'est rien vraiment passé.
Sérieux ?
Il ne s'est rien passé.
D'accord.
Il n'y a pas eu d'annonce assez forte. En fait, on est en fin de mandat.
Ouais.
Donc forcément, elle défend son bilan, ce qui est tout à fait, ce qui est tout à fait normal. Et elle défend le Green Deal, c'est-à-dire le gros projet écologique défendu et porté par les sociaux-démocrates au Parlement européen, à la Commission européenne. Très bien. Après, elle a donné beaucoup de gages à la droite qui est en mode « Oh là là, mais attention, la transition écologique, ça a des conséquences sociales. » Tout d'un coup, la droite s'intéresse au social, c'est très beau. Ça a des conséquences sur la compétitivité de nos entreprises, etc. etc. Et donc, sa seule proposition, ça a été finalement d'annoncer en grande pompe des rapports. Et on attend autre chose. En fait, que faire des rapports et de proposer des rapports quand on est la présidente de la Commission européenne. Pardon, moi, je peux annoncer aussi beaucoup de rapports. Donc non, c'est pas de sa hauteur. Ça manquait de vision, ça manquait de perspective. Et ensuite, la seule proposition, c'est quoi ? C'est de dire il faut moins de bureaucratie pour développer la compétitivité. Pardon, la compétitivité, ça marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Quand on a fait la révolution industrielle, vous pensez que on s'est dit « Ah ben, on va faire moins de papasserie, c'est comme ça qu'on va développer l'industrie ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça.
Il faut
faire la subvention et avoir une politique publique très très forte de transition écologique.
On va continuer à en parler, mais du coup, j'ai envie de me tourner vers François-Xavier Bellamy. J'ai entendu aussi du côté du PPE un discours relativement critique, mais la présidente de la Commission européenne a quand même donné des gages, comme l'a dit Aurore Laluc, vers la baisse de la paperasserie, par exemple, pour les PME. Il va y avoir un représentant de l'Union européenne pour les PME qui va filer un coup de main pour essayer d'aider. Vous aussi, déçu, vide, pchit ?
En fait, ce qui compte, c'est pas d'abord les discours, c'est la réalité, la réalité des actes et des faits. Et ce discours-là, il se passe dans un moment où on traverse une crise très profonde. Moi, la chose qui me marque le plus, c'est que finalement, on n'a même pas tellement entendu parler de cette crise que vivent les Européens. On a des mots qui évoquent la fierté, la force, l'efficacité de l'Europe. Mais le Secours populaire a expliqué il y a deux jours que 20% des Français vivent à découvert. Et on sait qu'aujourd'hui, en Europe, vous avez un Européen sur trois qui déclare devoir sauter des repas pour pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois. Et ça, c'est la réalité que vivent les gens. C'est la réalité qui est aujourd'hui le signe du décrochage du continent européen, de l'appauvrissement des Européens. Et au fond, ce retour de la pauvreté, la Commission n'en a pas tellement tiré les conséquences. La question de la paperasserie...
Jusqu'à présent, j'ai l'impression d'entendre Manon Aubry là, sur le manque de... Vous n'avez pas parlé des travailleurs européens paupérisés, etc.
Mais on peut regarder en face la réalité et pas forcément avoir les mêmes réponses à apporter. Moi, je crois qu'un des problèmes qui est créé cette situation actuelle, c'est justement qu'on a tellement contraint, qu'on a tellement compliqué la vie de ceux qui travaillent, de ceux qui produisent, de ceux qui créent en Europe, qu'effectivement aujourd'hui, vous avez des entreprises, des artisans, des commerçants qui doivent faire face à des règles qui sont d'une certaine manière uniques au monde. Et en fait, comme on est dans un monde ouvert, comme on est, et c'est peut-être un des éléments du problème, moi je regrette que la présidente de la Commission aujourd'hui continue de nous parler de signer des accords de libre-échange comme si rien ne s'était passé. Et sur ce point, je suis souvent en désaccord avec mon groupe d'ailleurs. Mais comme on est aujourd'hui devant une compétition mondiale qui est marquée par des pays émergents qui n'ont pas du tout à faire avec les mêmes contraintes environnementales, avec les mêmes contraintes sociales, ben si par définition on multiplie les contraintes pour ceux qui produisent chez nous sans protéger notre marché, eh ben on s'appauvrit. Et on voit des entreprises qui disparaissent. On voit en France en particulier la désindustrialisation qui n'a cessé de s'aggraver. Ouais. Et ça, c'est un sujet majeur.
Ouais, c'est le moment.
Attends, y a Marie Toussaint quand même qui va dire un mot parce qu'on a quand même vachement parlé d'environnement. Moi, dans ce discours, j'ai pris plein de notes. Le pacte vert européen, est-ce que c'est à mettre au crédit de Ursula von der Leyen et de sa commission ?
Alors, le pacte vert européen, on en a entendu parler. On a entendu parler de la beauté des forêts d'Europe.
Ouais.
On a entendu parler aussi de la beauté de la mer des Vaden. Donc, on a entendu parler d'écologie, mais on n'a rien entendu comme mesure. Et le pacte vert, c'était effectivement le centre du programme politique de la majorité politique à laquelle les écologistes n'appartiennent pas. Hein. On en a adopté 40%. 40% seulement du programme qui était sur la table.
Qui est entré en vigueur.
Donc il en manque 60%. Okay. On s'attendait à ce que ce matin, elle nous parle de biodiversité, de la restauration de la nature, une mesure absolument indispensable et à laquelle le groupe de M. Bellamy, dont M. Bellamy se sont opposés juste avant l'été. On a besoin de restaurer les écosystèmes. On voulait entendre parler de pesticides, d'OGM, de semences, d'alimentation, de produits chimiques et toxiques. On n'a rien entendu de tout ça, non plus que sur le bien-être animal. Donc en fait, c'est effectivement un discours qui nous dit là, on va écouter l'appel de la droite européenne qui s'est alliée avec l'extrême droite et on va se mettre sur pause, on va s'arrêter, on va prendre le temps d'ingurgiter les choses. Tant pis si le monde continue à partir en fumée, les forêts à brûler, les terres à s'assécher, les nappes phréatiques à s'appauvrir.
C'est vraiment à cause de l'Europe si tout ça se produit aujourd'hui.
C'est en partie
à cause de la production européenne.
C'est en grande partie à cause de l'Europe. Et ne me racontez pas d'histoire, vous savez très bien que si les émissions de CO2, pour ne parler que du CO2, ont baissé sur le territoire européen, c'est parce qu'on a exporté les pollutions des pays tiers.
Mais voilà, l'idée d'une transition juste et équitable qui ne doit pas impacter la compétitivité, je l'ai entendu de la bouche des sociodémocrates, ça.
Mais en fait, c'est nous qui l'avons porté. C'est-à-dire le fait
quand elle le fait, c'est formidable.
Alors, le problème, c'est qu'il y a les mots et il y a les actes.
Ah.
Et la difficulté, c'est que là, on avait beaucoup de paroles. Et nous, on est évidemment contents quand elle parle de transition sociale et écologique, de transition juste, parce qu'on s'est battu pour ça. Parce que justement, nous, on a été dans l'accord pour pouvoir défendre ce type de proposition. Et finalement, ce que l'Europe a fait de bien ces derniers temps, c'est quand même fondamentalement salaire minimum, réglementation des travailleurs des plateformes, le Green Deal. Pardon, c'est les sociodémocrates.
C'est les sociodémocrates qui l'ont porté.
Désolé, mais c'était notre commissaire européen. Mais par contre, le problème, c'est maintenant, il nous faut des actes. Et excusez-moi, mais c'est pas baisser la paperasserie des PME qui va permettre aux gens de sortir de la pauvreté. N'a jamais fonctionné comme ça. Il nous faut des règles sociales, il nous faut des règles économiques, il nous faut du rapport de force politique. Les congés payés, on ne les a pas obtenus parce qu'on s'est dit « Ah bah tiens, baisser la paperasserie dans les PME ». Non, on s'est battu pour pouvoir les avoir.
Donc tout est
rapport de force, tout est réglementation. Et moi, ça me fait beaucoup rire quand j'entends le PPE dire « On a une augmentation de la pauvreté. Le PPE, c'est ceux qui défendent, la droite, l'augmentation des taux d'intérêt. Et l'augmentation des taux d'intérêt, ça fait quoi aujourd'hui face à l'inflation ? Ça rend les gens pauvres, ça rend l'accès au logement difficile. Donc en fait, le PPE est en train de se plaindre d'une situation, et c'est tout à fait cynique de leur part, en disant « Oh là là, il y a la pauvreté, donc il va falloir tout changer et revenir à ce qu'on proposait, alors que ce qu'ils proposent n'a été que d'empêcher les mesures sociales, les mesures environnementales et l'accompagnement social des mesures environnementales. »
Sur le plan de relance européen post-Covid, j'ai entendu la présidente de la Commission européenne se féliciter qu'on galère à embaucher partout en Europe. Regardez, c'est génial, l'emploi est tellement revenu que les restaurateurs n'arrivent pas à embaucher. C'est quelque part assez formidable. Et d'ailleurs, j'ai entendu la présidente plaider pour une immigration choisie vers les métiers en tension. Quasiment une réponse à la tribune qui a été publiée en France, pardon pour le côté cocorico, mais qui a été publiée en France il y a quelques jours. François-Xavier Bellamy a raison, la présidente de la Commission européenne.
Ma surprise, c'est qu'elle a parlé aussi des 8 millions de jeunes qui en Europe aujourd'hui ne sont ni dans un emploi, ni en études, ni dans un apprentissage. Et ça, c'est un phénomène qui touche particulièrement la France. Le vrai sujet, quand on voit ça, quand on voit tant de jeunes qui ont du mal à trouver leur place dans le monde du travail, qui ont du mal à trouver leur place dans la société, est-ce que la solution, c'est de faire venir du coup, d'ailleurs, des gens pour travailler ? Il y a là, d'ailleurs, pour le coup, Aurore Laluc parlait de cynisme, mais moi je trouve qu'il y a là, dans cette proposition, effectivement une forme de cynisme qui consiste à dire on va aller chercher dans d'autres pays du monde et notamment dans des pays en développement la force de travail, les talents, les compétences qu'on va retirer à ces pays pour pouvoir faire en sorte de pallier les problèmes de notre propre marché du travail. Ça ne me paraît pas du tout une bonne stratégie à aucun point de vue. Je voudrais simplement revenir sur ce que Laurent Lalluc disait rapidement parce que on en a pris pour notre grade. Moi, je maintiens absolument. Et oui, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a voté contre ce texte sur la restauration de la nature. Parce qu'en réalité, on ne sauvera pas la planète en créant de plus en plus de complexité et de contraintes pour ceux qui travaillent en Europe. Je le redis. Et c'est, pardon, mais c'est aujourd'hui la situation que vivent tellement de travailleurs en Europe qui sont, et je pense par exemple aux agriculteurs, je pense aussi à tous les gens qui travaillent dans des PME, là où se trouvent les vrais gisements d'emploi, là où se trouve la valeur qui se crée aujourd'hui. Eh bien, tous ces gens-là aujourd'hui nous disent on n'en peut plus de faire avec la complexité qui nous tombe dessus. Ce n'est pas seulement pour les entreprises, c'est aussi pour les gens. La directive qu'on a votée sur la performance énergétique des logements, elle va aggraver profondément la crise du logement. Et à la fin de tout ça, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On donne. Vous donnez des parts de marché à la Chine, à des modèles de production qui, eux, détruisent l'environnement. C'est ça, la vérité.
Est-ce que la présidente de la Commission européenne...
Mais plus vous créez de contraintes sur l'agriculture européenne, plus vous augmentez les importations en Europe.
Quand on a interdit le travail des enfants en Europe, on ne s'est pas demandé si ça allait toucher et impacter notre
société. Heureusement qu'on interdit le travail des enfants. Heureusement, c'est déjà le modèle le plus exigeant au monde en termes d'environnemental.
Attendez, Marie Toussaint. Quand la présidente de la Commission européenne fait remarquer qu'avec nos critères écolo en Europe, c'est d'abord les voitures électriques chinoises qui bénéficient de notre marché avant les constructeurs européens, est-ce qu'elle a tort ?
À cause de la droite. Elle a raison aujourd'hui. Elle a raison aujourd'hui du fait des politiques qui ont été menées précédemment et pas par les écologistes. Hein. Donc je veux bien que mes deux partenaires autour de cette table se renvoient la balle. Mais les écologistes n'étaient pas en responsabilité. Les entreprises, les industries ont été délocalisées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de politique volontariste pour préserver l'emploi sur notre continent. Donc ça, c'est une vraie problématique parce qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, délocalisé les emplois et les pollutions. Donc il faut continuer à agir. Mais si vous me permettez, j'aimerais revenir sur la question de la pauvreté qui a été mentionnée par M. Bellamy. Parce que M. Bellamy décrit une situation qui est effectivement une situation d'accroissement des inégalités. Or, et on a parlé des migrations, Mme von der Leyen, elle en évoquer la pauvreté du bout des doigts. Elle n'a proposé aucune mesure, ni même un rapport, tout à l'heure, sur la question de la pauvreté. Mais les politiques qui créent de la pauvreté, ce sont les politiques qui ont été soutenues par le Parti populaire européen pendant toutes ces dernières années. On parle de migration. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 2000 personnes qui ont trouvé la mort uniquement dans la Méditerranée. Tant et si bien que le pape parle d'une plaie dans notre humanité. Ça, ce sont les politiques que vous défendez. Donc il n'y a pas seulement une inefficacité des politiques que vous défendez, mais elles sont aussi inacceptables d'un point de vue moral. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie faillite morale de votre famille politique, M. Bellamy, qui est totalement influencée et prise en étau par l'extrême droite. C'est ça la situation qu'on traverse. Et donc, il faut continuer à avancer, continuer à agir. Comme je l'ai dit, quand on prend des décisions comme l'interdiction du travail des enfants, quand l'interdiction du travail forcé sur le territoire européen, on n'impacte pas notre compétitivité. On se met à la hauteur des valeurs et du projet européen qui est le nôtre et que nous défendons.
Vous allez pouvoir intervenir. On va parler de l'Ukraine après et de l'élargissement.
Ouais,
Ce qui me marque
dans vos deux propos,
c'est quoi ?
C'est, en fait, l'absence de connaissance du fonctionnement de la politique industrielle, si je peux me permettre. Dans le sens où on n'est pas qu'une puissance réglementaire. Mais non, mais Marie...
On fait de la pédagogie industrielle,
on ne fait pas que des normes, on fait aussi de la subvention. Et on fait aussi, et on accepte aussi de réinstaller des industries polluantes sur notre sol plutôt que de les mettre ailleurs, si je peux me permettre. Ça veut dire que, par exemple, la question de l'exploitation des terres rares, il faudra l'ouvrir probablement en France, parce que je ne vois pas pourquoi on exploiterait des terres rares en Chine dans des conditions dégueulasses, et pour se sentir bien, nous, Européens, et les importer pour pouvoir faire des renouvelables. Ça,
donc
c'est le premier point.
Vous êtes pour la réindustrialisation d'industries polluantes en Europe ?
C'est-à-dire qu'il y a un bal des
faux... Je crois qu'on est tous les trois d'accord.
Il y a un bal des faux culs sur ce point-là, c'est-à-dire qu'en fait, on préfère laisser la pollution dehors plutôt que de la voir chez nous. Point 1. Point 2, sur la question de l'emploi des jeunes, les sociodémocrates ont permis, et ça va être annoncé, et j'en serai ambassadrice, de créer une garantie de l'emploi pour les jeunes. Voilà. On a acté le fait qu'il y avait un problème, effectivement, d'emploi pour les jeunes, qu'il y avait un problème de sens aussi, qu'il y avait une volonté de travailler dans la transition écologique, dans la restauration de la biodiversité.
Ça fonctionne comment, cette garantie ?
En gros, ça sera comme les territoires zéro chômeur de longue durée qu'on a en France. Il y a des besoins territoriaux, il y a des besoins qui sont satisfaits ni par le marché, ni par l'État. Et en fait, on se met autour de la table et on se dit, les chômeurs de longue durée, si vous le voulez, venez, il y a du travail pour vous, parce que nous, on a des besoins dans la biodiversité.
C'est quoi,
dans
c'est le des fait... emplois aidés
c'est, des... c'est pas des emplois aidés, en fait, c'est sur une base volontaire. Là, au lieu d'avoir votre chômage, c'est existe depuis je ne sais pas combien de temps.
Elle voulait nous faire un cours sur la politique industrielle. Elle me disait que la paperasserie n'avait jamais créé la révolution industrielle. Je suis d'accord, mais ce n'est pas non plus depuis... les subventions, ni les garanties, ni les dispositifs étatiques qui ont créé la révolution industrielle.
D'accord.
Ce qui crée l'emploi, ce qui crée l'activité, ce qui crée la force industrielle,
d'accord.
C'est d'abord de libérer les énergies.
Je pense que
les entreprises, elles n'ont pas besoin qu'on leur rajoute encore. Moi, j'ai été président de mission locale, je connais la garantie jeune, je connais les dispositifs, les
schémas.
On est des spécialistes européens en la matière.
C'est un grand communiste qui s'appelle Roosevelt, qui l'avait mis en place aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'ils ont créé une partie de l'infrastructure aux États-Unis et leur parc naturel. Alors j'entends que pour vous, Roosevelt est un communiste, manifestement, et que les Américains aussi. Mais non, vous êtes presque vous dites. Bah, mais voilà, mais donc on a réussi à créer ça.
Un infernal ultra.
Je ne vous ai pas coupé,
vous,
merci de ne pas couper. François-Xavier, on a créé ça. Et par ailleurs, l'autre point qu'on va faire et qu'on doit mettre en place, et c'est là où on a aussi une opposition de la droite, c'est la taxation de la fortune, qui n'est plus taxée nulle part aujourd'hui dans le monde. Or, on a besoin d'argent pour pouvoir aider d'un point de vue social et pouvoir faire la transition écologique.
Marie Toussaint,
la question de la révolution industrielle,
ouais,
dont on a besoin aujourd'hui, effectivement, parce qu'on a besoin pas seulement de décarboner, mais aussi de sortir de tous les produits toxiques, hein, les PFAS, les polluants éternels, tout ce qui vient, le plomb. On a appris que c'était 5 millions de personnes par an qui mouraient du plomb, évidemment parmi les plus pauvres. La question de la politique industrielle, elle est posée aujourd'hui en Europe. On a les États-Unis qui lancent l'IRA, qui a un immense plan d'investissement. Et c'est vrai qu'on a eu le plan de relance Covid, mais on n'a pas d'équivalent. Et jamais les moyens nécessaires à la transition écologique n'ont été déployés sur le territoire européen. Donc on en a besoin. On a besoin de mobiliser cet argent. Non seulement Ursula von der Leyen n'en a pas parlé, mais elle n'a pas parlé non plus, et ça c'est un élément incroyable ce matin, de la réforme du pacte de stabilité et de croissance.
Oui, c'est vrai.
Que certains appellent d'ailleurs...
voilà, c'est la règle des 3%, la fameuse.
La règle des 3% qui conduit à des politiques d'austérité, qui nous empêche d'investir dans les hôpitaux, dans les écoles.
Au moment du Covid, on est bien d'accord.
Elle a été suspendue au moment du Covid.
Et qui est en renégociation pour revenir éventuellement.
Mais parce qu'on a été devant une situation dans laquelle on s'est dit, bah là, on a besoin d'aider, on a besoin de financer des choses.
Oui.
Et donc, on libère la règle des 3%. Sauf qu'aujourd'hui, on entend un certain nombre, surtout à droite, qui demandent le retour de cette règle et avec une certaine rigidité. Le nouveau commissaire au climat, par exemple, qui demande des enquêtes contre les États qui ne respecteraient pas cette règle. Sauf que si on garde cette règle, alors on n'est pas en mesure d'investir dans toutes les infrastructures sociales dans lesquelles on a besoin d'investir aujourd'hui.
Ça peut faire partie de la négo, ça, sur
les investissements. J'ai dit les écoles, voilà, etc. Les hôpitaux, tout ça. Mais on n'a pas non plus les moyens d'investir dans la transition écologique. Or, c'est de ça dont on a besoin. On a besoin de pouvoir investir dans les batteries. On parlait de la Chine tout à l'heure, dans les véhicules électriques, mais aussi dans l'industrie de la santé, qui est une industrie, pour le coup, qui est polluante, dans l'industrie de la dépollution. Pourquoi l'Europe ne pourrait-elle pas devenir le lieu où on déploie l'excellence de la dépollution du monde? Nous sommes dans un monde rendu toxique, dans la civilisation des toxiques. Il va y avoir des millions d'emplois dans les années qui viennent dans la dépollution, donc on pourrait faire ça.
Je n'ai pas l'impression que ce soit incompatible avec la volonté que j'ai entendue ce matin exprimer. Ça veut dire que vous avez du travail, vous les eurodéputés. Il y a un autre sujet qui a été abordé quand même ce matin et que je trouve très intéressant. Ursula von der Leyen, en 2019, quand elle prend le pouvoir à la Commission européenne, elle nous dit qu'elle va donner naissance à une Europe géopolitique. L'Europe va arriver sur la jolie planète Terre. L'Europe va parler d'une seule voix, va dire quelque chose et va dire à la face du monde qu'elle a quelque chose à dire.
Ça ne voulait rien dire à l'époque.
Oui, mais justement, entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine.
C'est ça.
Est-ce que, selon vous, François-Xavier Bellamy, l'Europe est née géopolitiquement à l'occasion de cette guerre en Ukraine? L'Europe est en train d'acheter du matériel militaire et de le livrer sur un territoire de guerre. Je ne m'attendais pas à prononcer cette phrase il y a encore 2 ans.
Vous avez raison, il y a eu des basculements énormes qui ont été faits, et heureusement, parce que c'est très important de soutenir le peuple ukrainien dans son combat face à l'agression russe. Je dirais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que l'Europe soit un acteur géopolitique, et le premier d'entre eux, c'est de réussir à sortir de la situation de dépendance dans laquelle on s'est placé. Dépendance, on en parlait à l'instant, à l'égard de modes de production polluants et qui, par ailleurs, en réalité, sont aussi une vulnérabilité vis-à-vis de régimes autoritaires ou totalitaires. Je pense par exemple à la Chine. On n'a pas le droit aujourd'hui de se placer dans cette dépendance si on veut pouvoir être un acteur géopolitique qui soit réellement capable de maîtriser son destin. Et puis, le dernier élément, c'est la dépendance aussi. On y revient sur le plan migratoire. Moi, je crois, puisque tout à l'heure, j'ai été interpellé durement sur ce sujet, je me permets quand même de répondre, parce que c'est un sujet d'une gravité infinie. Oui, il y a des morts en Méditerranée, des centaines, des milliers de morts. Mais ces morts-là, ils ne sont pas causés par le fait qu'aujourd'hui, l'Europe ait trop de frontières et les défende trop bien. Au contraire, ils sont causés par le fait qu'aujourd'hui, si vous arrivez à mettre le pied sur le sol européen, vous avez la quasi-certitude de pouvoir y rester durablement. Et cette situation, elle incite à l'illégalité et elle organise en réalité la rentabilité du business des passeurs qui font de la traite d'êtres humains. Le vrai sujet, c'est qu'on soit capable de maîtriser nous-mêmes nos frontières.
En quoi une Europe géostratégique limiterait le phénomène.
C'est ça. Parce que c'est une Europe qui assume de ne pas être dépendante, y compris dans la maîtrise de ses frontières. Aujourd'hui, on a délégué, par exemple, à la Turquie, le fait d'être prestataire de la politique migratoire européenne. Et ça nous met dans une situation absolument terrible de chantage humain, ou plutôt de chantage inhumain, qui utilise la vie des migrants.
Donc vous préférez ce qu'on fait avec la Tunisie, où on dit à la Tunisie, gardez vos migrants, comme ça, ils les renvoient dans le frontière, ils les laissent mourir dans le désert, et puis on est bien.
Moi, je vois une même
vulnérabilité. En fait, vous voulez déplacer de la Méditerranée au désert.
Si je peux me permettre de vous répondre une phrase, je vois la même vulnérabilité là-dedans, et la même complicité, en effet, avec des systèmes de gestion des êtres humains qui sont en réalité absolument inhumains. Le fait est qu'aujourd'hui, il faudra bien travailler avec les pays extérieurs, avec les pays de transit et les pays de départ. Mais aujourd'hui, tout ça est lié au fait que l'Europe ne sait pas maîtriser ses frontières. Le jour où vous aurez la certitude qu'on ne peut s'établir durablement en Europe, que si on a été autorisé légalement à y rentrer, ce jour-là, on n'aura plus besoin de dépendre d'aucun des dictateurs pour gérer nos frontières. Et ce jour-là, il n'y aura plus de morts en Méditerranée.
Marie Toussaint, j'ai aussi entendu, au sujet justement du dossier ukrainien, une volonté claire de la présidente de la Commission européenne d'élargir à nouveau l'Union européenne. Elle a parlé d'une Europe à plus de 30 pays, en faisant un vibrant plaidoyer, en disant « c'est possible, regardez, on a réussi à gérer collectivement le Covid à 27, c'est la preuve que c'est pas impossible. On a réussi, sur le dossier ukrainien, à parler d'une même voix à 27, c'est la preuve que c'est pas impossible. Donc demain, l'Europe à 30, c'est possible. » Quelle est la position des écolos sur la question de l'élargissement ?
Alors bien sûr, l'Europe à 30, c'est possible.
C'est souhaitable ?
L'Europe est un projet. Et moi, je souhaiterais qu'il reste un projet... Europe, terre des droits et libertés. Voilà, un projet politique qui revient à dire que nous devons vivre ensemble dans le respect des limites planétaires et dans le respect de l'égale dignité de chacune et de chacun à l'intérieur de l'Union, comme d'ailleurs le plus possible dans les relations avec l'extérieur de l'Union européenne. J'aimerais dire un mot sur la question migratoire, mais je le ferai juste après. En tout cas, cette Europe-là, elle est possible, elle est souhaitable, oui. Mais Ursula von der Leyen dit qu'il faut faire l'élargissement et l'approfondissement. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble avec les règles telles qu'elles sont aujourd'hui, et donc il faut approfondir. Le fait est que c'est un espèce de souhait en l'air, un vœu pieux. Elle n'a formulé aucune proposition, ni d'un nouveau traité. Je défends par exemple l'idée d'un traité environnemental qui dirait qu'il y a des limites planétaires et qu'il faut qu'on y revienne, et que la protection de la nature, finalement, elle est tout en haut de la hiérarchie des normes. Je propose aussi qu'on se dise que le socle des droits sociaux, eh bien, ça devienne contraignant. Alors, il faut le nettoyer, mais quand même, on pourrait se dire ça, parce qu'aujourd'hui, ce
donc,
n'est pas le cas.
Donc, renforcer l'intégration politique, comme elle l'a dit d'ailleurs, elle aussi.
Et il faut aussi la renforcer d'un point de vue monétaire et budgétaire. Okay. L'union économique n'est pas finalisée. Donc, il faut réussir à mettre tout ça sur la table. Il y a eu un vide dans ce qu'elle nous a dit, parce que dire on peut faire du et, on l'a déjà entendu, je crois, et on n'est pas sûr que ça fonctionne. Sur la question migratoire, je voulais rappeler que par rapport à ce qui a été dit, il y a des milliers de personnes, des milliers, qui sont bloqués surtout au sud de l'Europe, souvent dans des exploitations agricoles, ou alors sans emploi, et qu'on appelle des ninis. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni le droit de s'installer sur le territoire européen, ni le droit de repartir. Donc on a une situation humanitaire absolument effroyable, et donc les réponses apportées par M. Bellamy, pardon, mais elles ont des tas de trous, celui-là en est un, comme d'ailleurs le fait que si en réalité on avait une politique migratoire beaucoup plus fluide et à l'écoute des personnes en situation de migration, dans la réalité certains viendraient et repartiraient. Il n'y a pas de fatalité, et par ailleurs... On peut aussi se dire que l'Europe terre des droits et libertés, c'est aussi une Europe qui accueille.
Sur la question de l'accueil, mais sur la question du respect des droits, ça aussi, ça a été remartelé par Ursula von der Leyen. On sait qu'elle a eu maille à partir avec un certain nombre de gouvernements. On pense à nos amis hongrois et polonais sur la question justement des aides européennes. Est-ce que c'est une bonne manière pour vous, Aurore Laluc, de gérer les budgets européens que de les conditionner au respect des droits? C'est nécessaire pour vous?
C'est nécessaire. L'Europe n'est pas assez outillée en fait pour se défendre en son sein. Contre la montée des populismes, de l'extrême droite et de potentielles dérives autoritaires. Et c'est ce qu'on voit dans certains...
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui dénoncent ça comme étant une dérive autoritaire?
Non.
Ils ne sont pas autour de la table, mais c'est identité et démocratie, le groupe d'extrême droite. Vous répondrez, oui, mais c'est ça, l'Europe autoritaire.
On nous dit que l'Europe, ce sont des valeurs, ce sont des principes auxquels on adhère, etc. Et quand c'est bafoué l'état de droit, il n'y a pas à négocier sur la question de l'état de droit, en fait. Ça, c'est le premier point. Sur la question des blocs, maintenant, je voudrais revenir sur ce sujet-là. C'est le point en fait manquant aussi du discours de Ursula von der Leyen, c'est-à-dire qu'on a parlé justement de principes. Or, l'Europe a besoin d'outils. L'Europe, c'est un géant qui est outillé comme un enfant de 1 ou 2 ans. Il n'a pas de budget quasiment. La règle, un peu inférieure à la France. Les règles, certaines, il faut les prendre à l'unanimité. Elle n'a pas parlé de la question de l'unanimité de sa remise en cause.
Elle a évité la question.
Elle a évité, alors que c'était une promesse.
C'est Guy Verhofstadt qui est venu remettre l'ambiance.
C'était une promesse. en 2019. Bref, ça manquait en fait de matière. Il faut vraiment avoir conscience que le monde dans lequel on a vécu, qui était faux d'ailleurs, mais qui était une espèce de narratif autour d'une mondialisation heureuse qui allait apporter la paix, etc., n'est plus là du tout. On est en train de reformer aujourd'hui des blocs géopolitiques. Il faut que l'Europe s'outille en conséquence, et il nous faudra, oui, une Europe de la défense. Il faudra outiller l'Europe, en fait, comme un État. Après, on peut mener des politiques de droite et de gauche, et moi, je serai là pour défendre la social-écologie. Ce n'est pas le sujet, mais il faut au moins qu'on soit outillé, comme l'État français, par exemple, est outillé. Il a des pouvoirs régaliens, il peut intervenir sur plein de choses.
C'est un plaidoyer fédéraliste que j'entends là.
Je suis fédéraliste.
Ok, d'accord.
Je suis fédéraliste.
Non, que ce soit clair, que les mots soient dits.
Bien sûr, parce qu'en fait, sinon, bah, autant arrêter là.
On va conclure, je vais faire un dernier tour de table. Merci à tous les trois d'avoir accepté de venir sur ce plateau. On rentre dans une année d'élections européennes. On va parler d'Europe. En tout cas, moi, je vais faire au maximum. On va revoir vos bouilles sur Twitch, j'espère, à la télévision, à la radio. Comment est-ce que vous l'abordez cette année, tous les trois? Vous la sentez comment? On va pas se mentir, hein, l'éléphant au milieu de la plaie, c'est le taux d'abstention des jeunes aux élections européennes. Voilà, comment vous l'abordez cette année d'élection? François-Xavier Bellamy.
Je crois que c'est une année vraiment décisive parce qu'on vit au milieu d'un monde en crise et dans une Europe qui, elle aussi, est en crise, c'est-à-dire littéralement à la croisée des chemins, la crise écologique, la crise économique, la crise sociale aussi. Tout ça fait partie de la réalité actuelle. Et la crise, c'est pas forcément une catastrophe. D'autres générations en Europe ont connu des moments bien plus catastrophiques en un sens que celui qu'on traverse aujourd'hui. Bah oui, il faisait ça.
Non, mais j'étais
sur
l'empanée.
Je voyais Marie Toussaint qui semblait sceptique, mais oui, moi je me dis que quand on était dans les années 40 en Europe, ça devait pas être simple de croire à l'avenir. Mais en revanche, on a rarement vécu des moments sans doute aussi critiques, c'est-à-dire des moments où vraiment l'essentiel se joue dans les décisions qu'on va prendre. Et merci de nous permettre de parler des questions européennes, parce que ce qui compte, c'est que les gens qui nous suivent, ils peuvent être d'accord ou pas d'accord avec nous, mais ce qui compte, c'est qu'ils se fassent leur opinion et qu'on parle des sujets européens. Moi, j'espère que cette élection européenne sera l'occasion de parler des questions européennes. Ça paraît anecdotique, mais en fait, malheureusement, ce que j'ai vécu la dernière fois, ce qu'on a tous vécu ensemble, c'est que souvent, quand on aborde les questions européennes, on se met plus à parler des questions de politique nationale, de l'actualité immédiate, au lieu de parler de ces grands enjeux qu'on a évoqués ensemble. Quel que soit ensuite l'avis que chacun se fera, ce qui compte, c'est d'abord qu'on en discute. Et merci Jean de nous l'avoir permis.
Mais je vous en prie, merci à vous Marie Toussaint. Vous êtes un symbole un peu de cette francisation des débats. Ça parle beaucoup de NUPES, liste unique, etc. Vous aussi, vous plaidez pour qu'on parle d'Europe dans cette élection européenne.
Bah oui, et j'en parle.
Je vois ça.
et j'en parle beaucoup. Non, et je me joins vraiment aux remerciements. Non, écoutez, je pense qu'on a deux défis pour lesquels c'est absolument essentiel que nous, mais en particulier les jeunes, se mobilisent. Pourquoi ? Le premier, c'est la montée des extrêmes droites. Et j'entendais ce matin Jordan Bardella répondre à Ursula von der Leyen en disant « On a un espoir, le 9 juin prochain, mobilisez-vous, on peut enfin l'emporter. » Bon. Et il parlait de choix de civilisation. C'est vrai, il y a un choix de civilisation à faire. Soit on fait le choix de l'Europe de l'enfermement nationaliste, de l'Europe des extrêmes droites, de l'Europe de la haine. Soit on fait le choix d'une autre Europe, une Europe qui soit fédéraliste, une Europe qui soit écologiste, une Europe qui soit juste socialement. C'est ça le choix qui est sur la table.
Okay.
Les extrêmes droites émergent en Europe. Elles passent de plus en plus d'accords politiques avec les droites au sein du Parlement européen, comme d'ailleurs de chaque État membre. C'est une vraie menace. C'est une vraie menace. Et on a besoin d'une grande mobilisation. Et pour répondre aussi à la question de la crise, je rappelle quand même que la crise que nous traversons, la crise écologique que nous traversons, accroît des inégalités qui sont déjà existantes et absolument insupportables sur le territoire européen comme à travers le monde, mais conditionne aussi la capacité de l'humanité à habiter sur cette planète. Et donc c'est l'enjeu de tous les enjeux, celui qui conditionne tous les autres, et donc il faut vraiment se mobiliser, on en a besoin, les défis sont nombreux, on a besoin de tout le monde.
Ok, j'espère qu'on vous entendra. On continue avec vous, Aurore Lalu. Comment vous l'abordez cette année ?
Combative avec Ravel Glucksmann, comme d'habitude, pour la justice sociale, pour la justice fiscale, pour le respect des droits, pour la transition écologique et au service de l'intérêt général, parce que je fais partie des parlementaires européens qui continueront à travailler sur un grand nombre de directives, de règlements, pendant qu'ils feront campagne. Je ne choisirai pas l'un ou l'autre. Pour protéger les Européens d'un point de vue social, des crises bancaires et financières dont on ne parle plus, et pour pouvoir continuer à avancer et à construire l'Europe, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire plus que de parler. Voilà.
Eh bien, merci encore à tous les trois. Je ne sais pas si vous avez vu, hier soir, il y a Apple qui a fait une keynote, qui ont annoncé l'iPhone 15. Grande particularité de l'iPhone 15, vous la connaissez ?
Non.
L'USB-C. L'USB-C arrive.
Votez ici.
Eh bien, justement, c'est un truc très concret qu'on a vu, même si c'est très anecdotique. Merci à tous les trois. Je crois que vous avez des trucs à voter, là. Vous libère.
On y va.
Vous quittez le plateau, vous retournez juste en face. C'est à moins de 20 mètres dans l'hémicycle du Parlement européen pour aller voter. Merci à tous les trois. Vous restez avec moi, vous. Je vais meubler en mode Ikea pendant quelques minutes, le temps qu'on retrouve mes prochains invités qui vont me rejoindre. On continue avec les eurodéputés français. C'est Valérie Hayé qui va nous rejoindre pour le groupe Renaissance, Manon Aubry pour le groupe de la gauche. Et voilà, je vous laisse. laisse y aller. Allez-y, allez-y. On est à l'arrache, on est sur Twitch, il n'y a pas de problème. Merci à vous, bon courage. Et bonne année, à bientôt. Au revoir François-Xavier Bellamy, merci beaucoup. J'espère que ça continue à vous plaire, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Donc, je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, on est à Bruxelles. Vous venez d'entendre un petit débat rapide, un débrief entre trois eurodéputés français représentant respectivement les sociaux-démocrates, c'était Aurore Laluc, les écolos, c'était Marie Toussaint, le PPE, les républicains, c'était François-Xavier Bellamy. On reste ensemble et on continue ce débrief du débat sur l'état de l'Union avec deux nouveaux eurodéputés qui vont me rejoindre. Ils sont en train tranquillement de sortir de l'hémicycle. Ils vont venir s'asseoir autour de moi et on continue à discuter. Oui, je suis à Strasbourg, je suis en direct de Strasbourg, je suis très heureux. C'est un partenariat avec le Parlement européen, ce stream exceptionnel. Nickel, non, ils sont en train d'arriver, tout va bien. Attendez, bougez pas, je ramasse mon stylo. Hop là, vous avez rien vu. Vous êtes de plus en plus nombreux en plus à nous suivre et ça, ça fait zizir en vrai. Tu gères de fou. Merci, ça fait plaisir. Je vais pas vous mentir, j'ai dormi 2 heures et j'en ai plein le crâne. Là, je suis fatigué. Ça a parlé ce matin de tous les dossiers européens sur lesquels j'ai passé un bout de ma nuit à me remettre au goût du jour. J'espère que ça vous plaît, en tout cas, enfin que ça vous plaît. Encore une fois, la notion de plaisir en politique, elle est particulière. Mais comment vous trouvez ça intéressant, que vous entendez des voix différentes, que vous avez une idée un peu plus précise des différentes options qui s'offrent à vous pour les élections européennes l'année prochaine. Et on va continuer à en parler tout au long de cette année. J'invite mes invités à me rejoindre. Allez-y, on est à l'arrache. Hein. Venez, venez. Ouais, on s'en fout, on s'en fout. Venez, venez. Mettez-vous à ma gauche. Manon Aubry, Valérie Hayé, bonjour. Merci à toutes les deux, je vous laisse. Voilà, vous allez être équipés tranquillement. Je continue donc cette introduction. Respire. Non, mais t'inquiète, moi tout va bien. Hein. On kiffe, vous kiffez, ça fait plaisir. Vous êtes super nombreux ce matin, on était le 4e plus gros live français sur Twitch à suivre ensemble le débat sur l'état de l'Union. Ça fait super plaisir et ça fait aussi plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Chers invités, Valérie Hayé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée et vous siégez au sein du groupe Renew. Exact. C'est le groupe Renaissance en France, c'est pratique, c'est le même
nom. De la majorité présidentielle.
C'est-à-dire, elle est où la différence entre les... C'est les macronistes, c'est ça, c'est comme ça.
C'est-à-dire, on a dans notre délégation des élus du Parti Renaissance, des élus d'Horizon, des élus du Modem et l'ensemble des composantes de la majorité.
C'est le centre pluriel, effectivement. D'accord, merci beaucoup Valérie Hayé d'avoir accepté notre invitation. Manon Aubry, bonjour.
Bonjour.
Manon Aubry, vous êtes la coprésidente de La Gauche. Ça a changé de nom, avant c'était La Gauche Unitaire Européenne.
Ouais, on a simplifié.
La Gauche.
La Gauche, comme la ça gauche. Au moins c'est plus facile, non
c'est, bah, c'est...
Je peux gagner du temps dans un live Twitch.
Ouais, et on vous remercie pour ça. Cette simplification, du coup, voilà, de La Gauche. Vous avez pris la parole tout à l'heure pour répondre, vous aussi, à ce débat sur l'état de l'Union, à cette allocution de Ursula von der Leyen, plus d'une heure de discours au cours duquel Ursula von der Leyen a eu l'occasion de faire le bilan de sa mandature. C'est sa dernière année, c'est votre dernière année aussi à vous deux, parce que c'est les élections européennes l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette allocution, de ce discours d'Ursula von der Leyen ? Valérie Hayé, vous l'avez trouvé comment ?
Elle a répondu, elle a annoncé à la fin de son discours qu'il fallait répondre à l'appel de l'histoire. Et ouais. Effectivement, je pense qu'on a été à la hauteur. Elle a décrit son bilan, mais aussi notre bilan collectif, avec tout le travail qu'on a fait au Parlement européen. Et on en a fait du chemin depuis 2019, ouais. Face aux crises qu'on a traversées. Je pense évidemment à la crise sanitaire, à la guerre en Ukraine, la crise énergétique, le plan de relance qu'on a déployé. Et donc, on a été collectivement, je crois, à la hauteur et au rendez-vous de l'histoire. Et puis, elle a reparlé du Green Deal. Et moi, j'avoue que je faisais partie de ceux qui craignaient qu'elle abaisse l'ambition sur le Green Deal.
Parce sur qu'on le
sait
climat,
que, ouais. Sur le climat, le pacte vert, parce qu'on sait que ça chahute dans sa propre famille politique, le PPE,
ouais,
sur le climat. Et en fait, elle est restée sur l'ambition climatique. Elle l'a d'ailleurs largement développée. Ça a été l'un de ses points prioritaires. Et effectivement, on a bâti notre mandat et sur cette colonne vertébrale qu'est le pacte vert. Et il faut aller jusqu'au bout de la dernière vertèbre. Après, pour moi, il y a des éléments d'insatisfaction, évidemment.
On va en parler. D'abord, je vais donner la parole à Manon Aubry. Manon Aubry, moi, quand j'entends Ursula von der Leyen parler pendant une heure, effectivement, je me dis que l'Europe n'a jamais été autant au rendez-vous de l'histoire. J'ai raison ou pas ?
Je crois qu'elle est très forte pour se tresser, je ne sais plus quelle expression, des lauriers. Ouais. Mais moi, ce qui est frappant, je ne sais pas si vous avez suivi mon intervention en direct, mais c'était ce que j'ai...
J'ai pas pu, malheureusement, j'étais avec...
Non, pas de souci, pas de souci. Mais du coup, je vous raconte ce que je lui ai dit.
Alors, vous avez dit quoi ?
Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'elle a parlé quand même 3 fois. Donc, ces 3 discours, les uns mis au bout de l'autre, ça fait à peu près 1h30, à peu près. Et pendant 1h30, à aucun moment, elle n'a parlé de la question de l'augmentation du coût de la vie, des prix alimentaires qui explosent. Et pour moi, cette urgence sociale, elle ne la prend absolument pas en compte. Elle est complètement déconnectée. Et pour vous dire, enfin, c'est pas sur Twitch que je vais dire l'inverse, que les questions d'intelligence artificielle, etc., sont importantes. Mais quand on parle bien davantage d'intelligence artificielle et qu'on aborde même pas la question du coût de la vie des gens qui explosent. Et donc c'est ça que j'ai essayé de faire dans l'hémicycle. Et je me suis dit, j'étais une des dernières à parler dans le dernier tour des présidents de groupe. J'ai suivi les 3 heures de débat et je me suis dit, puisqu'elle a pas entendu nous, les députés. Eh ben, je vais faire résonner des voix qui résonnent trop peu dans l'hémicycle, qui sont les voix des gens. Alors, j'ai pris un extrait d'une interview sur BFM, pour rien vous cacher, donc, voilà, d'un jeune que je ne connais pas et qui dit bah, « Moi, je galère concrètement et je saute des repas. » C'est un jeune étudiant. S'il nous regarde, voilà, salut Yacine. C'est un jeune étudiant et quand on a un tiers des gens la plus grande puissance économique mondiale, qui peinent à terminer leur fin de mois et surtout à se nourrir, c'est cette réalité sociale qu'elle aurait dû prendre en compte et à laquelle elle n'a absolument pas répondu.
Elle a quand même annoncé la convocation d'un sommet des partenaires sociaux à Val-Duchesse.
6 mois avant la fin de son mandat, un sommet social, sérieusement? Qui pense sérieusement quand aujourd'hui, ce qu'elle aurait dû annoncer...
La première à annoncer des sommets sociaux avant la fin de mandat, sinon on n'en a jamais.
Non, mais les sommets, ça ne vous donne pas à manger dans votre assiette.
Oui, d'accord.
Donc, si elle voulait agir concrètement en la matière, déjà, elle aurait parlé dans son état des lieux du sujet. Elle aurait compris que la question là que les gens se posent, c'est ma facture d'électricité qui augmente, c'est quand je fais mes courses, mon paquet de pâtes qui est passé maintenant à plus de 2 euros. Et elle aurait dit, ok, je prends une initiative en la matière. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont bougé dans l'Union européenne ces dernières années. Il y a une toute petite taxe sur les super-profits. Elle aurait pu l'élargir à toutes les entreprises qui font des super-profits parce que si les prix augmentent, c'est à 70% lié à l'augmentation des marges des entreprises. Donc voilà un exemple précis qu'elle aurait pu faire.
Valérie Ayer, on a entendu tout à l'heure Stéphane Séjourné, le président du groupe Rigno, faire un plaidoyer anti-Orban, très assumé d'ailleurs. Il le disait, sans minimiser, il a dit, voilà, c'est un discours anti-Orban, pro-démocratie, il a même parlé du respect des droits des personnes LGBT. Il y a une volonté, semble-t-il, au sein de votre groupe, de faire exister l'Europe à travers le pacte de valeurs élémentaires que défendent les Européens. Est-ce que vous pensez que ça ne risque pas de faire une scission avec un certain nombre de pays ou d'électorats au sein de l'Union européenne?
On ne peut pas transiger sur nos valeurs. Tous les États, quand ils ont adhéré à l'Union européenne, ils ont adhéré à nos valeurs. Et nos valeurs, c'est simple, c'est indépendance de la justice, c'est non-discrimination, c'est liberté de la presse. Et tout ça, c'est vraiment un socle commun, c'est notre projet politique. On ne peut pas se permettre de laisser, au sein même de l'Union européenne, des États, des gouvernements, en l'occurrence Orban et Morawiecki, la Hongrie et la Pologne, avec qui on avait des sérieux problèmes sur l'état de droit, continuent à prospérer et mettre à mal notre modèle démocratique. Écoutez, vous n'allez pas nous faire des leçons.
Par rapport à Orban, est-ce que la France...
On a un sujet, Pologne, Hongrie,
oui, c'est vrai.
Et on est très vigilants sur ce qui se passe aussi en Italie. Une Giorgia Meloni qui progressivement porte atteinte aux droits des personnes LGBTI. Et vraiment, c'est au cœur de notre fondement démocratique, c'est au cœur aussi de notre projet politique et de ce qu'on défend de manière très forte avec...
Est-ce que ça fragilise l'Europe alors? Est-ce que ça fragilise l'Europe que ses États membres...
Oui, ça fragilise nos fondamentaux en tant qu'Européens. Là encore, l'Europe c'est un projet politique et on doit pouvoir se réunir autour de ces valeurs et de ces principes qui fondent l'état de droit. C'est très concret pour les citoyens. On ne s'en rend pas compte quand on n'est pas touché. Quand on fait face à l'arbitraire, quand on est soumis à une décision de justice qui est prise parce que le juge a la bonne étiquette du parti en place, elle est où la justice? Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie et en Pologne. Parmi nombre et nombre d'autres exemples.
Quand on est ukrainienne et ukrainien, et ça aussi c'était un sujet sur la table ce matin, moi j'ai entendu une unanimité dans les prises de parole de soutien au peuple ukrainien. Pas dire de conneries, mais j'ai l'impression qu'il y a un consensus au Parlement européen.
C'est tant mieux.
Et c'est plutôt une bonne chose. Une époque qu'on aurait pu en douter du soutien à l'état de droit. Je pense à l'extrême droite, je pense à une partie de la gauche qui, à un moment, a pu avoir des accointances avec la Russie.
Je ne veux pas répondre pour l'extrême droite. Et je pense que quand on est financé directement par la Russie, notamment pour financer ses campagnes, je pense que les liens sont évidemment prouvés. Nous, ici, puisqu'il s'agit de voir aussi ce qu'on a fait en la matière, on a voté à peu près 25 textes de soutien à l'Ukraine ici au Parlement européen. Mon groupe et moi, je les ai tous votés. Je veux bien qu'on me dise que je suis ambiguë ou je ne sais pas quoi, mais démocratie, non, mais donc ça invite à avoir un recul assez critique sur ce que des gens disent, et que la meilleure chose en démocratie pour savoir ce qu'on pense, c'est de regarder nos votes. Et malheureusement, et c'est cool que Jean soit là aujourd'hui au Parlement européen, malheureusement, on ne s'intéresse pas toujours à nos votes tout au long de l'année. Donc si vous nous regardez, n'hésitez pas à regarder ce qui se fait tout au long de l'année au Parlement européen, parce qu'en fait, on légifère sur des choses qui sont essentielles dans la vie du quotidien. Et donc, si vous suivez nos votes, vous savez que sur les plus de 25 textes, que ce soit l'aide financière, l'aide militaire, l'aide humanitaire à l'Ukraine, on les a tous votés. Je crois qu'il n'y a pas à sourciller
sur le sujet. Après, sur les votes, faut aussi, c'est un rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il n'y a pas... Si les sanctions ont été votées par la gauche...
Si, si, je les ai votées.
En tout cas, il y a eu de l'ambiguïté.
Valérie, tu es une députée européenne, donc je t'invite à aller regarder. Donc, c'est pour ça que tout ça, c'est une fausse polémique. L'enjeu de l'Ukraine, il est évidemment présent ici dans les débats. Et c'est un soutien massif que notre Parlement accorde. Maintenant, il faut aussi pouvoir mener de concert les réalités sociales de notre continent.
Oui, c'est pas on va en parler. Sur la question de l'Ukraine, on a aussi entendu Ursula von der Leyen faire un plaidoyer en faveur de l'élargissement de l'Union européenne. Alors les plus jeunes n'ont probablement pas entendu ce mot depuis assez longtemps. L'idée que l'Union européenne accueille de nouveaux États membres. La dernière fois qu'on a discuté de ça, c'était quand un membre nous a quittés, malheureusement, nos amis britanniques qu'on embrasse. Mais là, c'est l'idée que peut-être l'Union européenne pourrait pourrait adhérer à l'Union européenne, l'Ukraine, la Moldavie et quelques autres États touchés très directement par cette guerre provoquée à nos frontières de l'Est par la Russie. Est-ce que Ursula von der Leyen a raison de mettre de l'ambition politique vers cet élargissement ? Valérie Ayé, vous pensez ?
À la raison, on a fait la promesse aux Ukrainiens qu'ils étaient membres de cette famille européenne et qu'ils avaient vocation à intégrer l'Union européenne. Mais on l'a fait en posant un cadre, évidemment, qu'on connaît tous, c'est-à-dire on a besoin de réformes. Aujourd'hui, l'Europe dysfonctionne. On a fait beaucoup.
Des traités, vous voulez dire,
voilà, voilà, exactement. De part et d'autre. Chez nous, en interne, au sein de l'Union européenne, on a quand même réussi à faire de grandes choses dans l'état actuel et dans le cadre des traités. Mais il faut qu'on soit plus efficace dans notre prise de décision. Et déjà à 27, parfois c'est compliqué. Par exemple, avec ce pouvoir de veto qu'on laisse à Orban, notamment pour les décisions de sanctions vis-à-vis de la Russie, qu'il exploite assez finement et sur plein de sujets d'ailleurs. Donc il faut qu'on puisse se réformer de l'intérieur. Il faut évidemment que la fin de la guerre que l'Ukraine soit victorieuse avant d'envisager évidemment une adhésion de manière concrète. Et puis il y a tout un ensemble d'exigences qu'on demande à ces États, on pense à l'Ukraine et à d'autres États, avant de rentrer dans l'Union européenne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'envisager, comme l'a dit Ursula von der Leyen, à la fois l'élargissement et l'approfondissement. Et là, je voudrais dire que je crois qu'en tant que Français, on a gagné la bataille. Parce que je me souviens en 2019, nous Français, on disait, en tout cas nous Renew, nous disions...
C'est Emmanuel Macron qui a gagné la bataille.
Nous, en tant que Renew et ce que portait Emmanuel Macron, c'était pas d'élargissement avant l'approfondissement. Ouais. Aujourd'hui, les États qui étaient davantage favorables à l'élargissement, sans considération du projet politique qu'on portait, élargissement pour des raisons essentiellement économiques, disent aujourd'hui, effectivement, on doit aller vers l'élargissement, mais il faut avant ça qu'on approfondisse, qu'on se réforme de l'intérieur pour être plus efficace et pour pas mettre en difficulté notre projet collectif.
Manon Aubry, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut élargir l'Union européenne et accueillir les Ukrainiens ?
Je pense, et on a tous voté là aussi, le statut de candidat à l'Ukraine, et je pense que c'était un symbole fort que j'ai défendu et soutenu, mais la question de l'élargissement se pose de manière plus large. Elle se pose pour les pays des Balkans. Il y a un certain nombre d'États qui sont dans la file d'attente, on va dire. Et je pense qu'on prend la question par le mauvais bout si on pose la question de l'élargissement dans le but d'élargir. C'est l'erreur qui a été faite au précédent élargissement. Je m'explique. En réalité, dans l'Union européenne, vous avez aujourd'hui des écarts de salaire minimum qui sont au moins de 1 à 6. Vous avez des paradis fiscaux au sein de l'Union européenne, l'Irlande, les Pays-Bas, Malte, pour ne prendre qu'eux, et les décisions en matière fiscale se prennent à l'unanimité. Donc pour moi, la question, elle se pose d'abord de notre capacité à faire une véritable harmonisation fiscale et sociale, plutôt que d'élargir la compétition à de nouveaux États. Ce qui ne veut pas dire, et ma position n'est pas d'exclure un élargissement, mais c'est de faire les choses dans le bon ordre. D'abord, de réussir à avoir un fonctionnement à 27 qui évite qu'aujourd'hui, une grande partie des délocalisations, par exemple en France, se déroule au sein même de l'Union européenne. Parce que les salaires sont beaucoup plus faibles en Pologne et en Hongrie. Donc c'est ça, d'abord, notre priorité. Et ensuite, on pourra envisager un élargissement avec une réécriture des traités qu'on défend depuis très longtemps. D'ailleurs, qui devait être l'objectif d'un truc qui s'appelait la Convention sur l'avenir de l'Europe, dont je pense que personne n'a entendu parler, et malheureusement, ça a fait un
j'ai
peu
pchit. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, mais...
Je crois que je sais plus, il y a quelques milliers de citoyens à peine qui ont participé. J'ai l'impression d'être un peu au grand débat.
C'était un engagement d'Emmanuel Macron dans la campagne de la présidence française de l'Union européenne.
Et ça
n'a pas été un grand succès. Qui a abouti et qu'il faut continuer
à parler. Qui a abouti à absolument aucun changement concret.
Sur la question, vous l'avez dit, où on a utilisé le mot approfondissement, il y a un peu un éléphant dans la pièce quand même, c'est la question des modes de décision au sein de l'Union européenne. Emmanuel Macron a ouvert la voie dans un de ses derniers discours sur la nécessité de réformer les traités. Je l'ai encore entendu, vous n'allez pas être contre réformer les traités.
Non, évidemment, on n'aura pas forcément on sera pas forcément d'accord sur ce qu'on y met, mais c'est un exercice démocratique formidable. C'est-à-dire que les gens s'en saisissent et à la fin, les gens valident. Si on veut changer la relation à l'Union européenne, si on veut sortir des dogmes libéraux que nous, on dénonce, qui vont faire que, par exemple, les règles budgétaires vont être réintroduites, les 3% de déficit, 60% de dette, qui va se traduire par on réduit les dépenses, par exemple, le reste à charge pour les médicaments qui va augmenter comme dans le prochain budget. C'est un débat à avoir avec l'ensemble des citoyens européens si on veut maintenir ces règles budgétaires ou pas. Je prends cet exemple comme je pourrais en prendre un autre. Et je crois que c'est un exercice démocratique que l'on devrait faire collectivement. Et je vois que les États traînent les pieds.
Là-dessus, si
les États traînent les pieds, allez-y, Valérie Ayer.
En fait, c'est vraiment, on a vraiment besoin de travailler sur le projet politique pour que les Européens et les Français comprennent ce que ça veut dire la réforme des traités. Parce qu'on a eu des expériences malheureuses. Et effectivement, en fait, cette dynamique interne, cette embrouille interne sur nos modes de fonctionnement, c'est essentiel à la vitalité démocratique du projet européen. Mais c'est vrai que ça peut paraître très éloigné des préoccupations concrètes des Français et des Européens. Or, c'est nécessaire. Donc, il faut pouvoir expliquer quel est notre projet politique commun pour justifier aussi cette réforme des traités. Évidemment, ça va de pair. Et quand on est pro-européen, on a envie d'être plus efficace. Et être plus efficace, c'est davantage protéger les Français et les Européens. Donc c'est cette dynamique globale et ce débat global qu'on doit avoir. La conférence pour l'avenir de l'Europe, ça a été un moment, en temps de débat démocratique, où on a posé
les cartes sur la table.
C'est un début, une première étape, et il faut qu'on aille effectivement plus vite et plus
fort. Mais les débats techniques, ça peut être fascinant. Moi, je vois les Français sont passionnés par 49 pour article 40. Mais non, mais justement, c'est quand ça devient politique.
Et regarde, en 2005, le taux de participation a été inédit.
Ouais,
et d'ailleurs, ce qui a mis en colère les Français, à juste titre, alors peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, et je ne sais pas s'ils étaient tous nés en 2005, mais en 2005, le problème, c'est que le peuple français a voté non et qu'on a quand même imposé par la petite porte derrière le traité auquel les Français ont voté non. Donc, d'où l'importance d'un véritable exercice démocratique, à la fois en associant les gens et à la fin avec une validation par référendum. Et oui, ce sera l'occasion de poser des questions concrètes. J'en pose juste deux sur la table. La question du droit de la concurrence en France et du droit de la concurrence européen a des implications concrètes. Par exemple, la mise en concurrence du fret SNCF, qui fait qu'on va vendre à la découpe une partie de l'activité de fret SNCF, ce qui veut dire concrètement qu'on va mettre plus de camions sur les routes au lieu de les mettre sur les trains, alors que c'est moins polluant.
Ça, c'est la faute à l'Europe.
Et ça, c'est la faute à l'Europe, parce que je pense qu'Emmanuel Macron fait aussi du zèle et est d'accord avec cette perspective-là, mais parce qu'il faut mettre en concurrence notre fret, alors on vend une partie de notre activité publique de fret SNCF. Un deuxième exemple,
d'accord.
Les tarifs réglementés sur l'électricité,
oui.
Auxquels on a vu, ils ont déjà augmenté de manière significative ces derniers mois et ces dernières années en France. C'est important de maintenir des tarifs bloqués pour les gens pour pas que ça explose. Et comme on va réformer le marché de l'électricité, on va encore remettre de la concurrence et à la fin, ça va être des factures qui explosent. Deux exemples concrets dans la vie des gens qui ramènent à du droit européen, raison pour laquelle il faut changer ce droit européen.
À l'inverse, dans le cadre qu'on connaît aujourd'hui, on a fait beaucoup, typiquement, tu parlais de la facture énergétique au tout début et du sujet de l'inflation. Effectivement, l'inflation, elle a commencé un peu avant la guerre en Ukraine, mais elle a explosé notamment en raison des prix de l'énergie. On a fait quand même des choses collectivement, la taxation des super profit des énergéticiens qui doit venir en soutien des entreprises et des ménages, le plafonnement et l'achat en commun, le plafonnement des prix du gaz et l'achat en commun des prix du gaz, ça c'est des éléments très concrets qui ont permis de réduire les prix. Donc on a quand même des réponses aujourd'hui en européen. Il faut accélérer la réforme du marché de l'énergie. On est en train de la négocier. On n'est pas tout à fait satisfait de ce vers quoi on s'oriente, mais clairement quand j'entends aussi les voix de l'extrême droite dire mais ne vous inquiétez pas, nous on a la solution miracle, sortons du marché européen de l'énergie. Mais est-ce qu'on mesure ce que ça signifie de sortir du marché européen de l'énergie? Ça veut dire des coupures
d'alimentation, d'électricité pour la France. Alors évidemment, parfois, effectivement, la France aussi approvisionne les pays voisins, mais il y a aussi des moments où cet hiver, si on était sorti du marché européen de l'énergie, on aurait eu des coupures d'électricité. Ça, c'est très concret. Donc, on est plus fort ensemble.
Alors, puisqu'on parle d'énergie, on va revenir sur la question du climat qui a été un peu centrale dans toute la première partie du discours de Ursula von der Leyen. Elle a mis en avant son bilan sur le pacte vert européen. Elle a promis l'arrivée d'un paquet législatif prochainement, avec une augmentation des investissements verts d'ici à 2050. Est-ce que cette partie-là de son discours, où elle nous a vanté la beauté des forêts européennes, n'était pas en contradiction avec l'autre partie de son discours, où elle a dit qu'il fallait améliorer la compétitivité des entreprises, faciliter le commerce entre les pays européens? Est-ce qu'on n'est pas dans l'injonction contradictoire, Ursula von der Leyen essayant de satisfaire un peu tout le monde?
Pourquoi on opposerait le climat et la compétitivité? Depuis le début, c'est ce qu'on fait. On a porté ce pacte vert.
Est-ce que ça marche?
Pourquoi on opposerait les deux? De la même manière qu'elle a parlé aussi des agriculteurs, pourquoi on opposerait l'agriculture à l'environnement? C'est notre ligne depuis le début, de dire on doit protéger la planète, mais aussi protéger et soutenir nos économies. Et évidemment, elle a fait un long développement sur l'industrie. Et l'industrie, c'est quoi? C'est notamment l'industrie propre. Elle a beaucoup insisté là-dessus.
Propre,
effectivement, l'hydrogène propre et l'industrie propre, ça, c'est un élément, une réponse très importante. Il faut relocaliser, réindustrialiser notre Europe. C'est un enjeu de souveraineté européenne. C'est aussi ramener des emplois sur le territoire. Et ça, ça se fait aussi en cohérence avec nos objectifs du Green Deal et du Pacte vert. Et donc, pour moi, le grand enjeu maintenant, c'est qu'effectivement, on continue de déployer le Pacte vert pour protéger la planète, pour protéger la biodiversité, qu'on assure les financements, parce que c'est ce qui manque. Aujourd'hui.
C'est l'argent.
Exactement.
Un tiers du pacte, du plan de relance était consacré.
Oui,
on a. C'est pas suffisant.
C'est nécessaire, mais je pense qu'il faut aller au-delà pour véritablement accompagner jusqu'au bout. On a fait effectivement le tiers du plan de relance dédié à la transition climatique. On a aussi 20% du budget ordinaire dédié à la transition climatique. On a le fonds social pour le climat pour aider les ménages dans la transition. Mais je pense qu'il faut aller plus vite, plus fort aussi pour faire face, parce qu'on vit dans un monde concurrentiel avec les Chinois, les Américains. Et dernier point avant de laisser la parole à Manon, elle a annoncé une enquête sur les subventions chinoises contre les voitures électriques. C'est très bien. Il faut qu'on arrête d'être les dindons de la farce mondiale et qu'on puisse être à la hauteur des défis.
Manon Aubry, protéger le climat tout en protégeant les économies, est-ce que ça ne va pas dans le sens justement de la lutte contre la paupérisation que vous dénoncez?
On voit... En la matière, quel est le sens des priorités d'Ursula von der Leyen? Parce qu'elle a parlé zéro fois en réalité d'écologie dans son discours, mais elle a parlé six fois de compétitivité, par exemple, 12 ou 13 fois entreprise.
Elle a parlé de biodiversité.
Mais ce qu'elle a cherché à faire, je vais jusqu'au bout de ma démonstration,
allez-y.
Ce qu'elle a cherché à faire, en réalité, c'est rassurer son propre camp politique en disant le Green Deal, c'est aussi de la simplification administrative. Non, ce n'est pas une charge. Parce que ce qui s'est passé, pour que les gens comprennent bien dans quel contexte là on se trouve en cette fin de mandat, c'est depuis quelques mois, il y a eu un vrai renversement, une bascule de la droite européenne qui est devenue complètement climato-sceptique et qui s'allie avec l'extrême droite pour voter contre les textes qui ont même le niveau le plus...
Au vote de cet été sur la...
Par exemple, sur la loi sur la restauration de la nature. Mais là, on va voter, là, d'ici quelques minutes, ce sera un autre bon test, un texte sur la qualité de l'air dont on ne sait pas si la droite le votera et qui s'allie sans cesse avec l'extrême droite. Je rappelle qu'Ursula von der Leyen vient de ce même groupe politique qui est le groupe du PPE de la droite. Donc moi, j'ai eu plus le sentiment...
Elle n'a pas l'air d'accord avec cette ligne-là, effectivement,
en
cotisation.
Moi, en l'écoutant, je l'attendais au tournant là-dessus. Ouais. Et en l'écoutant ce matin, j'ai quand même eu le sentiment qu'elle a voulu rassurer sa famille politique en la matière. Et puisqu'on parlait de contradictions, il y a des contradictions qui sont manifestes pour moi. C'est, oui, elle parle beaucoup d'industrie, mais dans le même temps, moins de 5 minutes plus tard, elle parle de libre-échange. Donc on va développer et favoriser nos industries. On va m'expliquer comment, en même temps, on va favoriser le libre-échange avec un accord avec la Nouvelle-Zélande qui va être signé le mois prochain, avec le Mexique, avec le Mercosur, etc. Où c'est quoi le principe? C'est qu'on fait venir des produits de l'autre bout de la planète. Je vous prends juste la Nouvelle-Zélande. C'est le premier producteur au lait du monde.
De lait, oui.
Donc on va faire venir du lait de l'autre bout de la planète Et alors que nos producteurs en France n'arrivent pas à écouler leur stock de lait. Donc ça fait partie des nombreuses contradictions en la matière. Et je me permets d'interrompre parce que je vois la petite télé derrière et justement, il faut qu'on aille voter.
Allez voter,
et comme
allez
les votes vont être serrés sur la qualité de l'air.
Allez-y, allez voter, retirez vos micros.
Oui,
non, mais c'est à ça que ça sert d'avoir un... Ah, vous avez le droit de courir. C'est à ça que ça sert d'avoir un plateau juste à côté de l'hémicycle. Allez-y. Les députés se barrent en courant pour aller voter. Merci beaucoup à Manon Aubry et à Valérie Ayer qui ont accepté mon invitation à venir débriefer et qui là sont en train de tracer. Vous verriez ça, c'est absolument magnifique. Elles sont en train de courir pour aller voter vite sur le pacte sur la qualité de l'air. Merci à L2 d'être venue également discuter avec moi pour débriefer de ce débat sur l'état de l'Union. Merci à vous sur le chat d'avoir été là. Merci à toutes vos pour toutes vos interventions, vos questions. C'était super intéressant. Je suis très heureux de vous avoir proposé ce stream. On arrive au moment de la conclusion. Il me revient à remercier tout particulièrement Zoher pour toute la partie technique, toute l'équipe de réalisation. Désolé, j'ai pas noté vos prénoms tout à l'heure. Merci beaucoup au bureau en France du Parlement européen avec qui j'étais en partenariat pour cette émission. Et il y en aura d'autres qui vont arriver dans l'année, croyez-moi, parce qu'on a une année d'européenne. Merci Isor, merci Inès, merci Agnès, merci Isabelle. Merci à vous d'avoir suivi ce stream. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Ciao.